C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
En parlant de la neige, d'abord, beaucoup de gens me parlent des opérations déneigement. Je pense que, de façon globale, c'est sûr que il y a des frustrations là. Je vous donne des exemples où on installe des panneaux pour dire qu'il y aura déneigement, puis au terme de la période, c'est pas fait pour toutes sortes de raisons. Puis là, il y a des gens qui sont assez contrariés de ça. Puis j'ai des photos là dans certains secteurs, Ville-Marie, Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord. Mais hier, on a appris, puis ça fait une couple de jours qu'on souligne l'aberration concernant les trottoirs de Montréal. Donc, la mairesse qui sera avec nous a dit que on va donner la priorité au déglaçage des trottoirs. Ça arrive au moment où on a une étude aussi concernant l'accès au transport collectif, donc métro, arrêt d'autobus, de l'Institut national de recherche scientifique, qui nous explique que pour les gens les plus vulnérables, donc les personnes âgées, les familles, les enfants, les accès, de façon générale, sont pas les plus sécuritaires. C'est pas aménagé. Donc, le piéton, là, qui est supposé être si important, puis tellement au cœur des priorités, on s'occupe pas des trottoirs de façon convenable l'hiver, puis en plus, les aménagements pour aller vers le métro, vers l'autobus, sont pas satisfaisants. Alors, je vous le disais plus tôt, Mme Plante sera avec nous ce matin, mais il est à peu près temps. Et encore ce matin, là, je regardais, puis je comprends que c'est un matin froid, quand t'enlèves la neige sur le trottoir et qu'il n'y a aucune forme d'abrasif, ça devient encore plus glissant. Et j'arrive pas à comprendre que ça soit pas devenu une priorité avant. On a les prévisions météo, on sait comment le portrait va évoluer d'une journée à l'autre. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de planifier ça correctement? Puis on ne demande pas de miracle. Puis tu sais, on peut chialer sur tout, là. On peut chialer sur les nids de poules qui commencent évidemment à apparaître. Et Dieu sait qu'il y en a. Puis toujours à peu près aux mêmes endroits. Puis il y a des automobilistes, des gens qui m'écrivent en disant « J'ai abîmé mon véhicule, j'ai pas vu, c'était couvert par la neige. » Fait partie, malheureusement, de la réalité urbaine. Mais là, quand on parle des trottoirs, on parle des piétons. Puis on parle des gens qui ont besoin de se déplacer. Et on l'a vu avec le nombre de cas de gens qui se sont retrouvés malheureusement à l'urgence. Premier volet. Deuxième volet, la ville, Valérie Plante a annoncé hier des investissements autour de 1 milliard de dollars pour revamper le centre-ville de Montréal. J'ai envie de dire, avec un clin d'œil, si on a besoin de mettre 1 milliard, ça montre à quel point le centre-ville de Montréal est en mauvais état. Et les mesures qui ont été annoncées, tu regardes ça, tu dis OK, c'est correct, là, tu sais, on va mettre des œuvres d'art, puis on va stimuler la vie montréalaise, on va créer le quartier de la francophonie, quartier latin. Bon. On va permettre l'ouverture de bars, puis d'établissements comme ça, 24 heures dans cette zone-là. Puis on espère être capable de stimuler la construction de logements, puis de mieux occuper le territoire. Mais la vraie vie, c'est que le centre-ville est dans un mauvais état. Et c'est pas parce que tu mets une œuvre d'art pas loin du parc Émilie Gamelin que les gens vont sentir l'été, par exemple, en meilleure situation. Il y a des enjeux de sécurité à Montréal. Je le sais qu'on peut pas trop dire ça, là, mais je vais vous le dire pareil parce que c'est ce que je pense. Les problèmes d'itinérance puis de campement et l'agressivité de plusieurs personnes dans des zones assez concentrées. On peut penser à la place du Puy au village, un restaurateur là, qui ferme en disant « Moi, je m'en vais ailleurs parce que je suis tanné de me faire, disons, que mes clients se fassent emmerder puis que c'est pas acceptable. » Puis les gens n'ont pas envie de ça. Donc, il y a tous ces enjeux de sécurité. Et il y a une autre réalité très forte. Hier, on avait des chiffres, deux données importantes. D'abord, les mises en chantier à Montréal sont en baisse. Déjà qu'on manque de logements, il s'en construit moins pour toutes sortes de raisons, les taux d'intérêt, la difficulté de mener à terme des projets. Puis là, je sais, l'idée aux voyageurs qu'on veut revamper puis construire des logements. Il y a des groupes qui parlent de récupérer des églises. Je dis pas qu'il n'y a pas d'idées, mais dans les faits, là, il y a moins de construction. Puis en plus, Montréal accueille 100 000 personnes additionnelles, principalement des gens issus de l'immigration. Donc, le gouvernement fédéral, par ses politiques, est en grande partie responsable de la crise du logement. En laissant entrer autant de gens à partir de différents statuts, ça explose. Puis là, on envoie ça dans la cour des villes, puis on dit, ben, arrangez-vous pour qu'il y ait des logements. Ça fait quand même beaucoup d'enjeux pour la métropole. Et quand vous regardez le niveau d'inflation qui a été publié hier, quelques constats. D'abord, c'est pas demain la veille que les taux d'intérêt vont commencer vraiment à baisser. Il y a plusieurs économistes qui pensent que ce sera pas avant 2025. Donc, si vous payez déjà très cher, vous allez continuer. Et la pression sur le budget familial de l'hypothèque ou du logement est considérable et la hausse est de plus en plus importante. Et les gens, là, c'est pas théorique, là. Ils le sentent et ils le vivent. Deuxième constat, pour le panier d'épicerie, tu sais, le logement et la bouffe. Là aussi, il y a des augmentations quand même importantes. Je regardais dans différentes catégories de produits. Il y a le Journal de Montréal qui fait un tableau ce matin. Les jus de fruits, par exemple. Les craquelins, des huiles, du bœuf haché, des sucres, du sucre en fait, des légumes en conserve, des produits transformés, ça coûte de plus en plus cher. Je comprends que l'hiver, il y a toujours une hausse, par exemple, des produits frais, là, parce qu'il y a quand même beaucoup d'importations puis moins de produits locaux, mais quand même, ça veut dire que c'est dur sur le portefeuille des gens. Donc, c'est quand même des éléments qu'on doit considérer. Merci beaucoup. On va parler d'éducation. On sait que les votes sur l'entente de principe ont commencé. Il y a des assemblées qui sont prévues. Pour le Front commun en général, là, je parle des profs puis du personnel des écoles, mais ça vaut là pour l'ensemble des conventions collectives. Et je le disais hier matin, là, j'ai reçu pas mal de notes d'enseignants en colère, de gens qui comparent leur augmentation à celle accordée à d'autres, comme les enseignants, les psychologues. Il y a d'autres professionnels qui disent, ben, je me serais attendu moi aussi une augmentation. Il y a de la grogne, OK? Est-ce que ce sera suffisant pour renverser les ententes de principe? Ça m'étonnerait. Il y a même Gérard Larose, on peut pas l'accuser d'être pro-patronal, là, qui dans le Journal de Montréal dit « Si les profs retournent ou les employés du Front commun décident de voter contre les ententes puis de renvoyer les équipes de négo, il n'y aura pas grand-chose de plus au terme de l'exercice. » Il a l'air à trouver que l'entente, que les ententes sur la table, de façon globale, sont assez satisfaisantes et que normalement, les membres devraient l'accepter. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de grogne et qu'il y a des profs qui se sentent trahis. Tu sais, quand tu fais la grève pendant 20-quelques journées, sans fonds de grève, que t'as pas de paye, tu t'attends à un miracle, puis on va se le dire, les attentes étaient élevées, puis il y avait un certain appui populaire derrière ça en disant il faut que les employés de l'État soient mieux rémunérés. Alors, c'est la première chose qu'on peut dire ce matin. Deuxième chose. Il y a des chiffres, des fois, qu'on ne sait pas comment les interpréter. Francis Veil, dans La Presse, nous explique que, contrairement à la perception, les jeunes Québécois sont de bons élèves depuis les dernières années. Le phénomène du décrochage scolaire s'est estompé, surtout quand on prend une période un peu plus longue. Il y a peut-être des jeunes qui décrochent à un moment donné, mais ils finissent par revenir étudier. Et la conclusion qui est importante quand vous regardez les chiffres, c'est qu'au Québec, 64 % des jeunes de 15 à 24 ans travaillaient en décembre 2023 contre 50 % en Ontario. Donc, ils sont travaillants, ils ont des jobs, puis ils font un certain nombre d'heures. Mais en même temps, on découvre qu'ils étudient quand même. Ils sont de plus en plus nombreux à aller à l'école. Secondaire, cégep, l'université. C'est quand même particulier. On n'arrête pas de dire qu'on a des classes avec des élèves en difficulté. On n'arrête pas de dire que les gars décrochent. C'est encore vrai, plus que les filles, mais quand même, la tendance est plutôt vers le travail et l'école. Tu sais, quand on présente les jeunes comme étant paresseux, pas intéressés, c'est un mythe qui est en train d'être défait. C'est super intéressant à lire ce matin. Puis en même temps, c'est encourageant. Fait que tu dis, OK, ils travaillent, ils vont à l'école. Quand vous regardez les résultats des examens, des épreuves internationales, le Québec figure toujours parmi les endroits au monde où les résultats sont les meilleurs. Puis en même temps, on a au quotidien l'impression que dans les écoles, c'est épouvantable, qu'ils savent pas écrire, qu'ils savent pas compter, qu'ils pensent juste à aller faire autre chose, puis qu'ils passent leur temps sur leur ordinateur ou encore à jouer à des trucs vidéo. Ça peut évidemment exister, mais il y a aussi l'inverse qui est vrai. Donc des jeunes qui travaillent, puis des jeunes qui étudient. Toujours dans la presse, là, c'est la folie de la consigne sur les nouveaux contenants de boissons. C'est un journaliste de la presse qui est allé faire l'expérience. Et là, vous avez plein d'exemples là, de canettes qui sont acceptées, mais la bouteille n'est pas prise. Ce que le dépanneur ne vend pas, il veut pas avoir les produits à gérer. Il y a des erreurs sur la liste. Tu mets le casino. Y a-tu quelqu'un qui a pensé une seconde qu'on irait porter des bouteilles au casino? Puis là, le casino dit, on n'est pas là-dedans. Là. Jean Coutu dit, nous non plus, on fait pas ça. Là. Bon. Dollarama, je pense que c'est pas encore une destination pour des canettes. Là. Les gens n'ont pas l'air trop au courant. Et on l'a vu cette semaine avec la gestion du bac. Il y a des gens qui sont de bonne volonté. Je pense que les Québécois, en général, veulent récupérer. Mais là, si on commence à nous compliquer la vie en disant, t'arrives là avec des produits sur lesquels il y a une consigne, puis là, on le prend pas, peut-être, ça dépend. Es-tu membre Costco, pas membre? C'est-tu la bonne canette? C'est-tu le bon embouteilleur? Hey, ça va finir à la même place, là, vous comprenez, là? Et c'est important de pas décourager le monde. Mais on dirait que c'est une caractéristique ici, là. C'est toujours pas mal compliqué. Le Devoir, ce matin, a obtenu des chiffres concernant la consommation d'eau au Québec des grandes entreprises. Et ce sont des milliards de litres d'eau consommés chaque année. Et par exemple, Rio Tinto là, a consommé 72,5 milliards de litres d'eau en 2022. Comprendrez que ce sont les compagnies minières, les papetières, qui boivent le plus. Et on a augmenté la redevance au Québec sur l'eau. Avant, on garochait notre eau, on donnait l'eau. Puis on disait aux multinationales, on vous laisse piger dans cette matière première incroyable que nous avons. Et pour des pinottes. Là, on a augmenté. Il faut donner ça à Benoît Charrette, à l'environnement. Mais ça demeure des broutilles. Là. Ça demeure quelques millions. Là. C'est pas grand-chose. Là. Tu sais, quand une compagnie paye 2 millions pour de l'eau, alors qu'elle consomme des milliards de litres, on s'entend là, que c'est pas ça qui va défaire le budget. Là. Donc, c'est mieux, mais on est encore très loin d'avoir un prix, disons, raisonnable, équitable, juste concernant la consommation de l'eau. Un peu de politique. Je vais en parler évidemment avec Jonathan tantôt, là, de l'univers politique. Radio-Canada nous apprend que on est sur la ligne dans les activités de financement de la CAQ. Alors, il y a des soirées. On sait que les montants, là, ça a été plafonné. C'est Bernard Drainville qui avait fait ça à l'époque. Donc, le directeur général des élections a regardé certains cas. Puis je vous raconte l'histoire de quelqu'un, d'après Radio-Canada, une citoyenne qui habite le comté de Chauveau, à Québec. Puis elle veut présenter un dossier au ministre Éric Girard. Fait que là, elle va voir son député ou un adjoint du député, M. Lévesque. Elle dit, tu moyen, vous pensez, de faire cheminer ça vers le ministre des Finances? Réponse. Venez donc au cocktail de financement, il va être là. Vous allez pouvoir lui présenter vous-même votre dossier. Ben, faut que tu payes. Faut que tu payes 100$ pour aller au cocktail. Donc, le DG des élections dit, attention, là. Tu peux pas faire ça, là. Tu peux pas commencer à faire du lobbying illégal. Puis tu peux pas demander de l'argent en échange d'un accès. On a vu tellement de cas dans le passé, là, au Parti libéral, puis au Parti québécois, les fameux milieux de vie, puis les groupes d'intérêt, les ingénieurs, les bureaux d'avocats, puis là, ça existe encore, là, du monde qui donne massivement, selon les règles, mais tu sais, des partenaires dans une entreprise ou des associés, 10-12, là, qui contribuent à la même caisse, tu sais. C'est-à-dire que dans la pratique des choses, ça a un peu changé. Les montants sont évidemment inférieurs, mais il y a encore cette tendance à associer l'approche directe auprès d'un ministre et la contribution au parti. Assez intéressant à lire. L'autre chose, c'est Québec solidaire. Alors, vous avez Émilise Lessard-Terrien qui a été élue co-porte-parole. Alors, évidemment, elle a le droit à un salaire parce qu'elle fait un job de co-porte-parole du parti. Elle n'est pas à l'Assemblée nationale, mais elle a des activités à faire. Donc, on lui a trouvé une rémunération environ 82 000 $. Gabriel Nadeau-Dubois gagne beaucoup plus. Là, il y a des gens qui disent comment ça se fait que c'est pas l'équité entre les deux. Ben, c'est parce que Gabriel Nadeau-Dubois, d'abord, il est élu, il est député, puis il a des responsabilités parlementaires pour lesquelles il est rémunéré. Est-ce qu'on paye à même les fonds du parti le même montant pour les deux? Je vous laisse juger ça. Moi, je pense que peut-être l'écart est un peu, parce que là, on parle du simple au double, là. Peut-être que ça mérite plus que 82 000 par année. Mais c'est sûrement pas le même prix qu'un député. Mais c'est sûr que ça fait jaser parce que on connaît Québec solidaire, ils ont très sur les principes. Puis tu sais, là, il y a, disons, une bonne différence entre les deux. Et puis, je veux finir ce matin sur une étude qui devrait donner de l'espoir aux gens qui ont des problèmes de sommeil, les gens qui souffrent d'insomnie. Alors, c'est une étude de l'Université Laval. C'est Charles Morin, qui est un spécialiste du sommeil, qui montre de façon très claire dans cette étude, qui est publiée dans une revue scientifique, que quelqu'un qui va suivre une psychothérapie va avoir autant de résultats positifs que quelqu'un qui prend des somnifères. Est-ce que le somnifère peut, dans certains cas, dépanner, aider dans des moments très précis? Probablement. Mais on a pris 211 adultes qui font de l'insomnie. La moitié ont été en rémission au bout d'un premier volet de 6 semaines. Et on s'est rendu compte que ceux qui prenaient des somnifères pouvaient évidemment régler une bonne partie de leurs problèmes, mais que c'est pas nécessaire. Puis des pilules, pas tout le monde qui a envie de bouffer ça. Alors c'est une approche importante, ça peut amener donc des changements de comportement. Les somnifères, t'as pas besoin de te forcer, là. Par définition, là, ça t'endort. Là, tu sais, des changements d'habitude, une hygiène de vie plus convenable, pas prendre de café avant de se coucher, des trucs comme ça, ça risque non seulement d'amener le changement, mais c'est un changement qui est durable. Et donc, des résultats d'études qui sont rendus publics aujourd'hui.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand.
La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé un plan pour revitaliser le centre-ville de Montréal sur plusieurs années. Les opérations de déneigement se poursuivent. Semble-t-il qu'on va s'attaquer au trottoir. Elle est avec nous ce matin. Madame Plante, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Comment
bonne année, bonne année.
Oui, bonne année. Comment ça va, vous?
Ben, ça va bien. Ça va bien. La santé va bien, vous?
Pas mal non plus. Je me suis reposé, puis vous aussi.
Oui, exactement. On va se souhaiter de la santé cette année.
Pour vrai, là, ça prend un sens.
Oui, absolument.
je vais commencer par les opérations de déneigement des trottoirs.
Ouais.
Est-ce que j'ai compris hier que là, la priorité va être donnée aux trottoirs?
Ben en fait, non, ça se fait en simultané. Puis en fait, le message que j'ai envoyé hier, c'est que pendant, on a vu le nombre d'appels qui ont été faits, la urgence santé, hyper préoccupant. Nous, on a reçu beaucoup d'appels au 311, des gens qui nous disaient, soit je suis tombée ou tel endroit, aller le nettoyer comme il faut. Bon, alors nous, on a pris ça au sérieux, évidemment. Et en fin de semaine, on a communiqué avec les arrondissements qui sont responsables des trottoirs, de chacun de leurs trottoirs, et de leur dire, écoutez, s'il faut ralentir le chargement, parce qu'on enlève la neige pareil, là, mais s'il faut le ralentir pour mettre plus d'équipes sur les trottoirs, s'il vous plaît, faites-le priorité.
Mais comment ça se fait qu'ils ne pensent pas à ça tout seul?
Oh non, non, ils pensent. Mais ben écoutez, je pense, on le dit souvent, là, 10 000 km de trottoirs puis 10 000 km de rue, c'est beaucoup. Après ça, chaque arrondissement ont leur machinerie, leur opération, leurs équipes. Fait que c'est moins évident pour moi de vous dire exactement là qu'est-ce qui se passe à tel tronçon de rue, mais dans tous les cas, chaque arrondissement a l'habitude, là, c'est pas le premier hiver qu'on traverse. liste, là. Il va en avoir d'autres.
Non, c'est clair. Mais ce qui est frustrant pour les citoyens, je vous donne deux ou trois exemples très précis, là, d'arrêts d'autobus où c'est pas déneigé.
Ben, c'est inacceptable.
Mais ben, il y a des chauffeurs qui débarquent des passagers pratiquement dans des bancs de neige où, bref, c'est pas normal.
Mais ben, le jour de la tempête, on est comme, on est indulgent, on comprend. Mais c'est pas normal que trois jours plus tard ou qu'il y ait encore, on soit pas capable d'embarquer dans l'autobus.
Et que des trottoirs pour permettre à des piétons d'aller prendre l'autobus soient pas dégagés, que ça soit des patinoires. Vous le dites, c'est pas le premier hiver qu'on a à Montréal.
Absolument, absolument.
C'est comme là, on se dit, ben là, on va faire nos opérations, puis le trottoir passera quand on aura le temps.
Non, vraiment, là, j'ai envie de vous dire, c'est sûr que c'est à géométrie variable. Moi, je suis la mairesse de Ville-Marie. Notre priorité piéton a toujours été en haut de la liste. Puis on a vu, là, comment ça s'est amélioré rapidement. Les trottoirs aussi, puis encore une fois, je vais pas me mêler là, des opérations. Je suis pas moi qui ai des blés, là. Mais c'est vrai que les trottoirs, contrairement aux rues, faut passer plus fois, faut déglacer. Côté soleil ou côté où est-ce qu'il n'y a pas de soleil. Je veux dire, c'est du béton. Hein, fait que ça absorbe pas nécessairement la lumière de la même façon. Mais dans tous les cas, moi, ce que je dis, c'est une chute. C'est une chute de trop. Les arrondissements, les communications qu'on a avec eux, c'est intensifier vos opérations. S'il faut passer quatre fois, parce que c'est souvent le cas avec la petite chenillette, passez quatre fois, mettez du sel, n'hésitez pas, parce qu'on veut pas que les gens se blessent.
Je comprends. Et j'avoue que c'est étonnant que des gens d'expérience dans les arrondissements aient pas ce réflexe-là. Il faut que la mairesse téléphone pour leur dire laissez tomber le ramassage puis allez vous occuper des trottoirs.
Encore une fois, c'est pas tant le ramassage parce qu'il faut s'occuper quand même pour que les véhicules circulent. Là, mais vraiment le chargement avec les gros camions. Là. Écoutez, c'est pas vrai que c'est ils attendent après la mairesse.
Mais ils font pas.
Mais il y a des endroits où est-ce qu'il y a vraiment place à l'amélioration. Je vais vous dire que c'est en continu. À chaque tempête, c'est ce qu'on fait. Honnêtement,
puis je suis allé voir sur le terrain.
Oui,
je me suis promené d'un arrondissement à l'autre. C'est assez différent.
Oui, c'est ça, exactement.
C'est la même neige, les mêmes trottoirs, mais c'est bien différent.
Puis moi, je les ai les chefs aussi des arrondissements qui ont décidé de le mettre en priorité. Puis qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Alors là, j'attends de pouvoir avoir une autre jasette avec les arrondissements. Vous allez écouter, les chiffres le démontrent.
Dites-moi donc qui sont ceux qui font le job correct, là, les meilleurs.
Pour l'instant, je vous dirais que ceux qui sont dans le top, il y a Hunsic Cartierville, il y a Ville-Marie. Ensuite, attendez, où est-ce qu'il n'y en avait vraiment pas beaucoup, là? J'ai mis dans le Plateau Mont-Royal également. Là, je vous en donne trois, là. J'ai comme
puis
une liste par journée. Vous voulez vraiment que j'aille là? C'est dur, ça, là. Oh, mais M. Arcand, laissez-moi vous faire au moins sur plusieurs jours pour en arriver à une conclusion. Parce que ce que je veux faire, en fait, c'est...
Mais on veut savoir c'est qui les pires, là. Bonne idée, d'après ce que j'ai comme courriel, mais j'aimerais vous entendre.
Ah, ben en fait, pouvez-vous me dire, vous, qu'est-ce qui vous dites que
Rivière
c'est...
Rivière des Prairies, Montréal-Nord?
Oui, j'avoue qu'il y a du travail à faire, là.
OK, entre autres. OK. L'autre chose... vous avez annoncé un plan de 1 milliard, là, c'est quand même pas banal, là, d'investissement pour revitaliser le centre-ville de Montréal.
Oui.
Si vous mettez 1 milliard, ça veut dire que ça va mal en maudit. C'est pas des petites sommes, là.
Mmh. Ouais.
Le centre-ville va pas bien.
Ben, je comprends ce que vous voulez dire, mais vous avez raison que c'est une grosse somme. Là-dessus, puis je dis 1 milliard, mais je voudrais que même c'est plus que ça. Mais moi, je pense que c'est surtout nécessaire, parce que on en parle souvent, là, les infrastructures du centre-ville sont maganées. Quand on fait la rue Sainte-Catherine, on fait pas ça parce que... On vient pas déranger tout un écosystème là sur la rue Sainte-Catherine pour le fun. C'est parce que les infrastructures souterraines étaient... abîmé, ça coule. Bon, mais on en profite pour refaire la surface. Ça va être la même chose dans le village. Ça va être la même chose, entre autres, une partie du quartier latin. Donc, je vous dirais que c'est un peu comme l'usure normale d'une ville en termes d'infrastructure. Là. Mais tout ce qu'on fait, nous, comme administration, c'est de dire, tant qu'elle est travaillée en dessous, là, on va rendre le déçu beaucoup plus convivial, plus intéressant, puis travailler avec l'ensemble des partenaires pour que ça marche. Fait que je vous dirais que c'est surtout une conjoncture. Puis en plus, comme on est dans une période de récession, moi, je considère que c'est temps d'investir. C'est temps d'investir pour quand, là?
Mais ce que je veux dire, c'est que dans les mesures que je comprends les travaux d'infrastructure, mais dans ce que vous avez annoncé, de dire on va créer le quartier de la francophonie, le quartier francophone.
Mais qui est déjà existant.
Qui est le quartier latin.
On va juste
OK. Puis qu'on va mettre des œuvres d'art et tout ça. Moi, ce que j'entends des propriétaires puis de commerce, par exemple, puis des citoyens, c'est de dire, ouais, mais aller dans le village, là, puis se faire écœurer parce qu'on est à une terrasse, puis il y a des itinérants, puis il y a des enjeux parfois même de violence.
Bien sûr.
Faites ce que vous voulez, j'irai pas plus. Il y a un restaurateur qui décide de déménager parce qu'il se fait emmerder, puis ses clients se font emmerder. En faites-vous assez? Êtes-vous équipé pour faire face à ces problèmes de campement puis d'itinérance?
Grosse question, j'ai envie de dire que, puis là, vous avez parlé d'œuvres d'art. Sérieusement, dans mon plan, là, les œuvres d'art, c'est une petite partie du budget, mais mon 1 milliard, on est vraiment dans des infrastructures. Oui, oui, oui. Hein, je veux quand même le dire, là. Mais ceci étant dit, bien que la culture, c'est important, vous avez raison de dire que on peut pas juste penser à la beauté des lieux sans réfléchir à qui occupe l'espace. Puis, quand on a mis la cellule de crise en place pour Émilie Gamelin l'année dernière, on travaille avec l'UQAM, le CIUS, le SPVM, EMIS, hein, qui est la brigade d'intervenants de rue. Mais c'est justement pour s'occuper du monde. Parce que moi, la chose que je ne veux pas, c'est, je veux dire, on a des problèmes, des enjeux de métropole. C'est ça, Montréal. Moi, je suis très fière parce qu'on a des opportunités de métropole, mais on a des enjeux de métropole, vous l'avez dit. Plus de vulnérabilité, plus d'itinérance, des problèmes de toxicomanie. Les ressources, il y en a beaucoup à Montréal. Donc, faut s'occuper que tout le territoire, comment dire, tout le monde soit à sa place. Mais c'est pas facile, Monsieur Arcand, vous avez raison. Puis c'est pour ça qu'on travaille avec le gouvernement du Québec qui est en charge de l'itinérance. Quand on revendique depuis des années du logement, parce qu'un campement, c'est pas une solution, c'est pas un mode de vie, là. Donc, j'ai envie de vous dire que moi, ce que j'ai présenté...
Exemple, la mairesse de Longueuil dit, moi, je touche pas au campement.
Ben, écoutez, moi, je veux pas juger ce qui se passe à Longueuil. On peut-être, chaque ville a ses différences, mais moi, sur le dénombrement, sur 10 000 itinérants dénombrés par le gouvernement du Québec, 5 000 sont à Montréal. La moitié. Et moi, j'ai besoin de m'assurer d'une cohabitation. Vous l'avez dit, quand, par exemple, des commerçants disent « Hey, je me sens insécure », je suis pas en train de dire que les itinérants créent de l'insécurité.
Non, mais il y a des enjeux de santé mentale, de violence, de drogue.
Exactement. Donc, moi, je dois composer. La mairesse de Longueuil, elle gère comme avec ses problématiques. Moi, je dois m'assurer qu'il y a une vitalité économique, que les citoyens qui habitent dans le centre-ville, là, des familles, qu'il n'y a pas de seringue, par exemple, dans ruelle en arrière, parce qu'on veut avoir cette mixité-là. Donc, moi, j'ai des enjeux à régler, pas à régler ou à m'occuper, en même temps que je dois soutenir le développement économique, développement culturel. On est une métropole. Donc, pour moi, c'est autant je présente ce plan-là, mais en continu, il y a tout ce qui se fait au niveau de l'habitation, de la lutte, pas de la lutte à l'itinérance, mais plutôt comment on soutient les personnes vulnérables. Puis ça ne peut pas se faire tout seul comme ville.
L'autre question, deux chiffres simples.
Oui.
Quand vous avez 100 000 personnes qui débarquent à Montréal, principalement de l'immigration, là, puis on a vu que le Québec, en termes de réfugiés, par exemple, avec ce que ça implique, c'est à peu près la moitié de ce qu'on retrouve au Canada. Puis de l'autre côté, on apprend que les mises en chantier
sont
à la baisse. Plus de monde, moins de construction.
Ça met une pression extrêmement difficile sur la grande région métropolitaine, Montréal en particulier, parce que 70 % des nouveaux arrivants arrivent par Montréal. De là, l'importance, comme je disais, la crise du logement a commencé à Montréal, est un peu partout au Québec maintenant, mais c'est une réalité. J'en parlais avec mes collègues de Vancouver, de Toronto, on est tous en même situation. Il y a une tension où il y a de plus en plus de gens qui cherchent un logement abordable ou un logement à prix modique, puis il n'y en a pas. Donc, les mises en chantier, c'est névralgique. Mais moi, j'ai envie de vous dire, pas juste des mises en chantier de condos de luxe, là. Des mises en chantier où il y a du logement social, du logement abordable pour toutes sortes de clientèles, dont les itinérants, qui, on le sait, disent, ben moi, si j'ai un toit, je dormirai pas dans la rue, là. Donc, le gouvernement fédéral, M. Trudeau, a dit que ça serait une priorité. Le gouvernement du Québec a décidé que maintenant, c'était une priorité. Je m'en réjouis. 1,8 milliard qui est prêt à être investi. Nous, on est prêts. On a présenté l'îlot voyageur la semaine passée, en plein milieu, à côté d'Émilie Gamelin.
Ouais.
700 logements.
Je vous écoute, là, puis je me dis, les enjeux, parce qu'il y en a plusieurs, là, les problèmes d'itinérance, de logement, avec l'immigration et tout ça. Ça touche directement à la métropole.
Oui.
Puis les principaux pouvoirs, c'est pas vous qui les avez.
Ah oui, en effet, là, je vous dirais que c'est tout, mais ça a toujours été comme ça.
Oui,
hein?
Mais la question qui suit,
oui,
est-ce que vous êtes écouté par Ottawa? Est-ce que vous avez l'écoute de Québec? Autrement dit, là, êtes-vous seul face à ces problèmes-là? Puis
Comment
réagissent les paliers supérieurs?
Pour la crise du logement, je me suis jamais cachée en disant que je trouve que ça a pris beaucoup de temps avant que Québec réalise l'ampleur de l'enjeu. Je pense qu'il a fallu que ça touche d'autres régions, autres que Montréal, pour qu'il y ait peut-être cette prise de conscience. Même chose pour les vulnérabilités. Mais là, ils sont au rendez-vous. Je travaille très bien avec mes collègues à Québec. Ceci étant dit, j'ai toujours dit, c'est pas juste le ministre, la ministre de l'Habitation ou le ministre de l'Itinérance qui va régler les enjeux que vous venez de nommer. va falloir que tous les ministres se mettent ensemble pour dire, OK, comment on avance? Est-ce que je suis entendue? La réponse est oui, dans la mesure où là, il y a 1,8 milliard qui a été mis de l'avant. Mais ce que je souhaite, c'est qu'on travaille encore mieux ensemble. Parce que nous aussi, on a une responsabilité à la Ville de Montréal.
Donner des permis.
Oui, exactement. Puis là, on a créé une cellule facilitatrice. L'île aux voyageurs est prêt à partir. J'ai à peu près presque une centaine de projets qui sont prêts. Donc, il faut juste que qu'on s'attache mieux, je dirais, au niveau du financement, puis au niveau des décisions entre le Québec et Montréal ou les autres villes en concernant l'habitation. Mais la volonté, je la sens. Je la sens. Moi, je suis prête. On veut avancer. Mais j'ai envie de vous dire que il y a des défis en face de nous, là. Ça, c'est sûr.
On parlait du budget.
Oui.
Est-ce que c'est vrai qu'on gère serré à la ville, on veut acheter un crayon, ça prend 12 autorisations? C'est une image, là. Mais, mais que vraiment, il n'y a pas tant de dépenses que ça qui se font actuellement?
La réponse est oui, là. Tout est, il y a beaucoup de choses qui sont en gelée ou, au niveau des embauches, au niveau des, il n'y a pas de missions qui se font à l'international ou même tout est pas mal approuvé par le directeur général parce qu'on est en train de revoir tous les programmes. Je pense que c'est ça l'élément le plus important. Mais c'est comment les pertes de dépenses.
Je vous donne un exemple, dont on m'a parlé. La station d'épuration, Marcotte.
Mm-hmm.
Qui manque d'entretien, semble-t-il qu'ils ont dû attendre longtemps pour pouvoir acheter des fusibles. Tu sais, ce genre...
Oh ben là, écoutez, je pensais que c'était comme une image, mais là, vous êtes vraiment
là, je suis dans un
crayon fusible, c'est pas mal la même affaire.
Ouais.
Ben là, écoutez, j'aime penser qu'on n'a pas besoin de demander une autorisation pour acheter des ampoules, là. Fait qu'écoutez, je vais regarder ça, mais c'est notre usine d'épuration d'eau la plus importante au Québec, là.
On me raconte, là, je vous donne un exemple, là, il y a une pompe qui est en arrêt depuis 3 ans parce qu'on n'a pas de budget pour la réparer.
Écoutez, pour moi, il y a une partie de moi qui a envie de vous dire ça se peut pas dans la mesure où je veux dire la Ville de Montréal, c'est 6 milliards de budget. Vous comprendrez bien qu'on est capable de mener en parallèle autant du déneigement que d'acheter des fusibles. Donc là, vous allez... à chaque fois, vous m'en sortez une nouvelle comme ça. Fait que
je laisse repartir avec vos notes.
Mais on a les moyens puis on a la capacité de mener de front l'usine d'eau et d'autres opérations.
En parlant des budgets et des voyages,
oui.
L'office de consultation, oui. Il y a eu le ménage. Madame Olivier, bon, ultimement est partie. Celle qui l'avait remplacée est partie.
Là, c'est M. Bourque qui était
qui est là. Mais M. Grenier, là, celui
oui.
qui se
fout... Le directeur. Là,
oui. Est-ce qu'il est encore là?
Ben oui, parce que dans la mesure où le conseil municipal a la capacité d'émettre, de renvoyer, si je peux dire, la présidente, mais on n'a pas la capacité de toucher à la direction générale, c'est la présidence du conseil de l'OCPM.
Mais c'est un méchant freeloader, donc, lui, là, qui se promène sur le bras de la ville. Là.
On a M. Bourque qui vient d'entrer en poste, qui entre en poste dans quelques jours, et puis il aura les coups des franges pour mener à bien, faire ce dont il a besoin pour rétablir la confiance des Montréalais envers l'OCPM. Qui est une organisation qui est importante. Là. Donc, tout ça est en plan. On est très content que M. Bourque, avec son expérience, ait accepté de se joindre à l'OCPM. Là.
Comment vous avez réagi pour vrai là, quand vous avez su là, toutes les dépenses qui se faisaient, là, puis d'aller voyager, c'est une chose, là, mais des voyages inutiles, puis des rencontres?
Ben écoutez, encore une fois, quand on regarde...
Tasser Mme Olivier, ça n'a pas dû être simple.
Écoutez, comment j'ai réagi? C'est extrêmement difficile parce que comme administration, nous on a voulu comme vraiment ramener les mandats, mais on peut pas se mêler de l'OCPM. Ça, c'est une des choses que je disais à M. Bourque. Faut respecter l'indépendance des organismes paramunicipaux, mais la reddition de comptes, puis cette idée-là d'avoir de la transparence, c'est extrêmement important. Ça, c'est quelque chose que je veux que M. Bourque, on souhaite que M. Bourque s'intéresse. Fait que c'est sûr, j'ai pris ça difficilement.
Madame Olivier, vous l'avez démissionné là. Je comprends qu'officiellement c'est elle qui quitte là, mais.
Ben écoutez, il y avait définitivement un bris de confiance. C'était important pour moi comme mairesse de protéger l'institution de la Ville de Montréal, mais il fallait aussi laisser l'OCPM, comment dire, ouvrir les lits pour faire du ménage. Donc là, pour l'instant, on s'en tient à ça. Mais c'est sûr que dans un contexte économique très difficile, toutes les autorités publiques, c'est de l'argent public. Souvent, vous savez, il y a des gens qui m'ont dit, hey, je te dis que si on regardait dans le milieu privé, là, ce qui s'est passé à l'OCPM, c'est rien. Je dis, OK, je comprends, parce que bon, hein, c'est un autre modèle, le privé. Mais en même temps, je rappelle toujours, oui, mais là, c'est de l'argent public. Alors, on a une responsabilité encore plus importante de montrer que c'est rigoureux. Encore une fois, Madame Olivier, puis l'OCPM opérait dans un cadre légal. Ils n'ont pas volé de l'argent, là. Mais
Ils se sont gâtés.
Mais en fait, j'ai envie surtout de vous dire que ce cadre-là, moi, je pense qu'il aurait dû être revu il y a longtemps. C'est surtout ça.
OK. J'ai une dernière question.
Oui, allez-y.
Qu'est-ce que vous pensez de la candidature potentielle de Denis Coderre comme chef du Parti libéral?
Eh hey boy, hey, j'ai tellement pas pensé à ça. Hey, on parlait de santé tantôt, fait que moi j'ai envie de vous dire que au final là, je sais, Denis, il a quand même eu un gros accident, ouais, là. Puis si il est assez en forme, puis il est prêt à se lancer dans un exercice qu'on s'entend et périlleux et exigeant physiquement là. Fait que si Denis est prêt à se lancer là-dedans, ben moi j'y souhaite. Comment dire, pour garder la forme, il faut avoir des projets qui nous motivent. Alors, je lui souhaite bonne chance.
Est-ce que vous avez hâte de savoir qui va se présenter contre vous?
Honnêtement, ça aussi, j'ai pas mal de défis, fait que je concentre ailleurs. Mais vous savez, la démocratie, ça veut dire qu'il y a des candidats, des nouvelles idées.
On entend le nom de Dominique Anglade.
Ben oui, on a entendu le nom de Dominique. Dominique, c'est une personne que je respecte beaucoup. Puis si jamais c'est elle qui se présente, ben voilà, on fera une course Valérie-Dominique.
Merci beaucoup d'être venue ce matin.
Merci beaucoup.
Valérie Plante, la mairesse de Montréal.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Maintenant, on va parler d'insomnie. On sait que les Québécois, mais je dirais, ça se limite pas au Québec, bien sûr, les nuits sont parfois difficiles. On a de la misère à s'endormir, on se réveille en plein milieu de la nuit, ça affecte notre morale. Et il y a une étude qui semble vouloir démontrer que la psychothérapie peut s'avérer aussi efficace contre l'insomnie que les somnifères. Donc, une approche pour changer les habitudes, les comportements, plutôt que d'aller vers les médicaments. Le docteur Charles Morin est avec nous. Il est professeur à l'École de psychologie à l'Université Laval. Docteur Morin, bonjour.
Bonjour.
Expliquez-moi en gros les conclusions de cette recherche.
Ben, c'est une étude où on a recruté plus de 200 personnes qui souffraient d'insomnie chronique. Puis on leur a offert d'abord un traitement comportemental ou une médication. Puis après 6 semaines, s'ils n'étaient pas en rémission, il y avait la possibilité de recevoir un deuxième traitement. Donc, on a déjà rapporté les résultats de cette étude-là sur les variables reliées au sommeil la nuit. Mais dans cette étude qui vient d'être publiée, on se concentre sur les séquelles diurnes de l'insomnie. Vous savez, quand on vit de l'insomnie, il y a beaucoup de fatigue qui s'ensuit et le lendemain, baisse d'énergie, problème d'humeur, de concentration et ainsi de suite. Alors, dans cet article qui vient d'être publié, on a démontré que les deux approches produisaient des bénéfices sur le fonctionnement diurne et qu'il y avait un avantage lorsqu'on répondait pas à la première approche d'en ajouter une deuxième. Mais on parle toujours ici de traitement à court terme. Pour des gens qui ont souvent souffert d'insomnie pour plus de 10 ans, bien le traitement, il dure à peu près 6 semaines. Le premier et le deuxième, la même durée, si on a besoin de l'introduire.
Par exemple, est-ce que quand vous avez cette approche donc de psychothérapie, ça donne des résultats peut-être plus importants à long terme. Autrement dit, c'est pas juste un somnifère qui nous fait dormir, mais là, ça nous apprend à modifier nos habitudes de vie.
Tout à fait. Quand on parle de psychothérapie, ici, il y a une forme de psychothérapie bien spécifique qu'on appelle la thérapie cognitive comportementale. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a le volet comportemental, qu'on modifie les habitudes, les horaires de sommeil. Le volet cognitif, c'est plus axé sur les perceptions, les croyances et les attitudes. Donc, une approche comme ça, c'est clair que ça demande plus d'efforts, ça demande une bonne dose de motivation. Mais comme vous le dites, les résultats sont beaucoup plus durables. La médication va produire des effets plus rapides, mais lorsqu'on cesse de prendre la médication, souvent on va se retrouver à la case départ. Donc, chaque approche a ses avantages et ses limites. Il n'y a pas une seule approche qui répond aux besoins de toutes les personnes qui souffrent d'insomnie chronique.
Quand vous dites chronique, là, comment vous pourriez définir ça?
Ben, premièrement, l'insomnie se manifeste de différentes façons. On peut avoir soit des difficultés à trouver le sommeil lorsqu'on va au lit, ou il y a des personnes qui n'ont pas de problème à trouver le sommeil, mais qui se réveillent au cours de la nuit, des réveils courts mais fréquents, ou des réveils moins fréquents mais de plus longue durée. Et finalement, il y a des personnes qui n'ont pas de problème à trouver le sommeil et à rester endormi pendant 4-5 heures, mais ils se réveillent de manière prématurée le matin et la nuit est écourtée. Donc ça, c'est les 3 formes classiques d'insomnie. Et tout le monde va faire une nuit occasionnelle d'insomnie. Donc, on parle d'insomnie chronique lorsqu'on on a des difficultés de sommeil 3 nuits ou plus par semaine et que ça persiste au-delà de 3 mois.
Des gens qui disent, là, par exemple, que je dors 5-6 heures par nuit, j'en ai assez, puis j'ai pas besoin de plus. Ça se peut, ça?
Oui. Là, vous me donnez un exemple. Oui. 5-6 heures, c'est possible. Il y a des différences individuelles. En gros, on a besoin, les adultes, de 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Mais il y a des personnes qui s'en tirent relativement bien avec un peu moins de sommeil. Et il y en a d'autres qui ont besoin de plus d'heures de sommeil. Puis quand vous me dites 5-6 heures, c'est possible, mais on sait qu'une personne qui dort peu a peut-être des risques accrus de développer certains problèmes de santé mentale ou physique. Puis les gens qui prétendent avoir besoin de 3-4 heures de sommeil, c'est excessivement rare que ces personnes-là peuvent rester éveillées adéquatement pendant toute la journée. Donc, il y a des exceptions, mais ça tourne beaucoup autour de 6, 7, 8 heures de sommeil par nuit chez l'adulte.
Est-ce que l'insomnie, c'est un problème en croissance?
Ben, c'est clair que pendant la pandémie, c'est un problème qui était extrêmement élevé, fréquent. On a amené des enquêtes pendant cette période-là et ça a augmenté 2-3 fois les niveaux qu'on avait en temps normal. Là, présentement, on espère que c'est revenu un peu à la période pré-pandémique, mais on pense souvent, oui, que c'est en croissance, mais je pense qu'on y accorde un petit peu plus d'importance au sommeil que si on retourne 20, 25 ans en arrière. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'informations sur l'importance du sommeil. C'est un pilier au même titre que la nutrition ou l'entraînement physique pour une santé globale durable. Donc, si on dort mal, peut-être qu'on va y porter un petit peu plus attention qu'auparavant. Du moins, c'est ce qu'on souhaite avec les données probantes qu'on a maintenant sur l'efficacité des traitements.
En terminant, je peux pas faire autrement que vous demander des conseils pour les gens qui écoutent ce matin pour bien dormir, pour pas souffrir d'insomnie. Avez-vous quelques trucs, quelques pistes à suivre?
Oui, il y en a des trucs, mais il n'y a pas de solution facile pour un problème à long terme. Mais une chose est certaine, c'est qu'on a tendance à passer plus de temps au lit qu'on devrait le faire, surtout quand on fait de l'insomnie. On a tendance à vouloir aller se coucher un peu plus tôt, se lever un peu plus tard, alors qu'on devrait faire l'inverse. Si on dort mal, si notre sommeil est fragmenté, brisé, on devrait compresser notre fenêtre de sommeil pour augmenter les chances d'avoir un sommeil plus consolidé. Puis on peut pas travailler mentalement ou physiquement jusqu'à la dernière minute, éteindre les lumières, puis penser que notre cerveau va se mettre en mode sommeil tout de suite. Ça prend une période de décompression, de transition. Puis aussi, si on dort mal, si on n'est pas capable de dormir, on ne devrait pas essayer de forcer la note. Plus on essaie de forcer le sommeil, plus longtemps on va rester éveillé. Donc, faut faire attention à la fameuse anxiété de performance. Ça peut nous amener dans un cycle vicieux assez rapidement, ça.
Est-ce que c'est important de, idéalement, se coucher toujours à peu près à la même heure puis de se lever à peu près à la même heure?
C'est surtout important de se lever à la même heure. Okay. Pour entraîner notre horloge biologique. Puis le soir, je pense qu'il est préférable d'aller avec notre rythme naturel. Si on n'a pas sommeil à 21 heures, allons pas se coucher avant 21 heures. Attendons que le sommeil nous envahisse pour renforcer l'association entre aller au lit et s'endormir rapidement. Et surtout, il faut laisser le cellulaire et les appareils électroniques hors de portée et hors de vue pendant la période de sommeil.
Dernière question. Vous, est-ce que vous dormez bien?
Habituellement, oui. Il y a des périodes où le sommeil est plus écourté lorsqu'on a certaines échéanciers à rencontrer, mais je pense que dans le monde des médias, probablement qu'il y a plus de problèmes de sommeil qu'ailleurs, compte tenu des horaires auxquels vous devez faire face.
Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Dr. Morin. Bonne journée.
Bonne journée, merci.
Dr. Charles Morin, qui est professeur titulaire à l'École de psychologie à l'Université Laval, directeur du Centre d'études des troubles du sommeil, et donc qui publie cette recherche sur la façon de régler les cas d'insomnie chronique. On ne parle pas d'insomnie temporaire, là, qui est lié à un événement ou une situation, mais pour des gens pour qui c'est un problème récurrent. Donc, la psychothérapie qui peut faire un bout, qui peut aider à changer les comportements et tout aussi efficace donc que des somnifères. Maintenant, une histoire que je trouve bien intéressante. On a parlé la semaine dernière du tournoi Pee-wee à Saint-Hyacinthe où des jeunes joueurs de hockey ukrainiens sont venus. Donc, pour participer au tournoi, des familles les ont reçus, les ont accueillis. Et ce matin, je vous présente Alexandre Barbeau, qui a hébergé deux jeunes joueurs de hockey ukrainiens durant le tournoi de Saint-Hyacinthe. Monsieur Barbeau, bonjour.
Bonjour, monsieur Arcand.
J'ai été bien touché par le message que vous m'avez envoyé concernant les deux jeunes joueurs qui sont allés chez vous. Peut-être nous raconter un peu l'histoire. Deux joueurs, dont un qui était la vedette de l'équipe, là.
Oui, Alexis, le numéro 78, le capitaine de l'équipe. Franchement, ça a été un privilège de le voir jouer, de le voir évoluer sur la glace, un talent naturel. Mais outre le hockey, cette expérience-là était une expérience humaine qui a été bouleversante à bien des égards. Bon, on a rencontré des parents, les autres parents. Suite à l'expérience, on avait tous le même feeling d'avoir vécu une expérience humaine qui nous a bouleversés dans nos certitudes, dans notre confort. Et message qu'on retient, résilience de ces jeunes-là.
Donnez-moi des exemples là, d'événements, de commentaires, de situations qui ont fait là, que ça vous a à ce point bouleversé.
Bon, premièrement, voir les jeunes prendre des douches de 2 minutes. Ça dit bien des choses. Moi, je les voyais passer avec leur serviette le matin. Je me retournais. Oups, ils sont déjà remontés. Ça fait 2 minutes qu'ils sont descendus au sol. Un signe que l'eau chaude est peut-être pas une denrée qui est abondante en temps de guerre. Ensuite de ça, comment je dirais bien ça? Autre fait marquant, c'est au bout d'une semaine, j'ai allumé pourquoi ces deux garçons-là dormaient avec la lumière ouverte. Et un matin, même la porte était ouverte, je me suis dit, porte ouverte, lumière ouverte, sont-ils déjà levés? Non, ils dorment. Probablement en raison des nombreuses interruptions de courant qu'il y a en Ukraine et le bruit des bombes pendant la nuit. Donc, eux, plus à l'aise de dormir avec la lumière ouverte. Mais c'est surtout aussi une des plus marquantes, c'était le bruit, un bruit constant qu'on entendait provenant d'un téléphone. Parce que ces jeunes-là, les deux qu'on avait chez nous, venaient de Dnipro. Pour qu'on se rende compte à un moment donné que c'est une application qui est installée sur leur téléphone qui avertit avec un avertissement sonore que il y a des bombes, il y a des missiles qui s'abattent sur la région. C'est comme un signe, allez, trouvez-vous un bunker pour aller vous réfugier. Ces trois événements-là sont marquants.
Il y a un des jeunes qui s'est malheureusement blessé à la cheville.
Oui, mon petit Nicolas, qu'il a eu le temps de jouer pas tout à fait deux périodes de son premier match. J'ai même pas vu comment ça s'est passé. La première chose que j'ai vue, il est sur la glace, il est en douleur. Ce petit gars-là avait eu le temps de nous montrer que sur la glace, il avait un cœur de guerrier grand comme son pays. La poste blessure m'en a démontré encore davantage. J'ai eu la chance d'être dans une famille, dans la famille où ma conjointe, qui est un ange, puis je ne remercierai jamais assez de voir comment elle m'a encore démontré comment elle était forte, c'était une bonne personne. Ma conjointe travaille à l'hôpital de Saint-Hyacinthe. Donc, elle est allée chercher des béquilles après la deuxième période qu'elle a vu que la cheville de Miko était mal en point. Le lendemain matin, là, c'était branle-bas de combat, la cheville est enflée, rencontre le coach, parce qu'il faut dire que le club est accompagné de deux adultes, le coach et le père d'un autre joueur. Donc là, branle-bas de combat, la mère veut une radiographie, donc ma conjointe, dans le cadre de son travail, a accompagné Nicolas et l'adulte responsable qui dans le dédale là, du système de santé québécois, c'est-à-dire passer à l'urgence. Ensuite de ça, ces gens-là, les joueurs avaient des assurances pour se faire rembourser en cas, justement, de consultation médicale. Mais là, bon, ben, tu viens d'un pays qui est à 9000 kilomètres, t'as beau être l'adulte responsable qui parle anglais, t'as aucune idée comment ça se passe ici. Donc, ma conjointe a accompagné à la perception. Puis là, ben, j'ai pu voir que quand on va à l'urgence, puis on a une radiographie, ça coûte pas rien. Ensuite, justement, là, c'était de savoir quand il y a eu le diagnostic que la cheville était brisée, qu'une opération était nécessaire. Là, c'était faire le message, parler en anglais aux responsables, qui appelait la mère de Miko en Ukraine pour traduire en ukrainien qui devait être opéré. Et là, c'était la mère hésitait à savoir est-ce que je le fais opérer en Ukraine ou il est opéré au Canada. Puis bon, ben après, il y a eu consultation avec l'orthopédiste et l'orthopédiste a été très humaine. Elle a parlé, elle a traduit en anglais à l'adulte responsable qui, lui, est en communication avec la maman de Miko qui était à 8-9 000 kilomètres pour lui dire que si ça avait été son propre fils dans une telle situation, elle aurait préféré que l'opération se déroule dans le pays natal et le type de fracture qu'il avait, ça pouvait attendre au retour en Ukraine. Ce que j'ai retenu de ce petit garçon-là, et c'est pour ça que je dis, je vais me rappeler de ça toute ma vie, puis ça m'a bouleversé, c'est sa résilience. OK, je me reportais à l'âge de 11 ans, ou mon propre enfant à l'âge de 11 ans, à 8-9 000 kilomètres de la maison, dans un système, une société complètement différente, dans une langue qui est complètement étrangère, avec la cheville brisée. Et ce petit gars-là, le seul moment, moi, je l'ai vu verser une larme à l'hôpital vendredi après-midi, parce que je me suis absenté de mon travail pour aller un peu prendre la relève de ma conjointe qui faisait comme sa job de maman, puis sa job à l'hôpital en même temps. Je l'ai vu verser une larme, une seule, puis c'était quand la maman était en discussion avec l'adulte accompagnateur. La décision était de savoir est-ce qu'on le fait opérer au Canada ou non. Et il riait. À la suite, quand il est revenu à la maison avec son appel, ça ne l'a pas empêché d'avoir du plaisir avec son coéquipier. Même moi, quand je l'ai, il est sorti du vestiaire le jeudi soir, je l'ai porté dans mes bras pour l'asseoir dans l'auto, je l'ai porté dans mes bras pour l'entrer dans la maison et il riait. Je suis pas certain que j'aurais ri, ni même qu'un de mes deux enfants aurait ri à être à 9000 kilomètres de la maison avec une cheville cassée.
Vos deux petits gars sont repartis lundi, ils transitaient par Vienne. Comment ça s'est passé le départ?
Des larmes. Je dirais que tous les parents qui étaient présents lorsqu'on est allé les reconduire à l'aréna, nous étions bouleversés. On voulait pas les laisser partir. Moi, je les aurais gardés une semaine de plus, même si les événements arrivés à Petit Miko nous ont énormément fatigués. Ça a pas été assez long. Je voulais continuer d'en apprendre sur ces gens-là, continuer comme de nous inspirer de leur courage. Et les parents étaient unanimes. Il y avait des larmes. On voulait pas les laisser partir. On avait tous été bouleversés à un point ou à un autre par l'expérience, par les contacts, par ce dont on avait été témoin à plusieurs égards. Puis c'est une expérience humaine incroyable. Puis là, surtout, c'est ça. Penser que pour retourner dans leur pays, ils prenaient un vol Montréal-Vienne. Après ça, c'était Vienne vers un aéroport en Slovaquie. Je sais pas si c'est Košice ou Bratislava. La plupart continuaient, avaient un autre tournoi en Slovaquie. Ceux qui rentraient en Ukraine avaient un trajet à faire en véhicule d'environ 1200 kilomètres. Bref, c'est ceux qui retournaient en Ukraine ne dormaient pas dans un lit avant mercredi soir. Puis je tiens à dire que leur dernière nuit dans un lit confortable était dimanche. Mais au moins, ce qu'on a su, c'est que la mère de petit Nicolas, elle l'attendait à l'aéroport de Vienne pour effectuer le reste du voyage avec lui. Allez-y, monsieur.
Non, mais j'allais dire, c'est extraordinaire de vous entendre, ça fait du bien. Puis ça se sent dans votre voix que ça vous a pas mal affecté, puis ça vous a changé, puis que c'est une expérience que vous oublierez pas.
En effet. Puis si c'est à recommencer, je recommence demain matin. J'ai même dit à l'organisation du tournoi que s'il y avait une équipe ukrainienne qui revenait ou de n'importe où, ça peut permettre de vivre une espèce de choc culturel, on se portait volontaire.
Monsieur Barbeau, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous ce matin.
Bienvenue, monsieur Arcand.
Au revoir, bonne journée. Alexandre Barbeau, c'est un père de famille. Il a hébergé deux jeunes joueurs ukrainiens lors du tournoi de hockey de Saint-Hyacinthe. On apprend ce matin que Olivier Primeau a décidé de vendre ses deux festivals, Métro Métro et Fuego Fuego. Il est avec nous ce matin, c'est vendu à Evenco. Olivier Primeau, bonjour.
Monsieur Arcand.
Pourquoi vous avez décidé de vendre vos festivals?
Beaucoup de jobs, beaucoup de risques. Pas peu de récompenses, mais c'est beaucoup de pression. On s'en est parlé quelques fois dans les dernières années. Puis c'est ça, on a eu une opportunité. Ça fait longtemps qu'on parle avec Evenco. Puis super content de cette transaction-là, tout le groupe.
C'était quand même, ce sont des jeunes festivals. Mm-hmm. On comprend que quand on démarre quelque chose, c'est plus de temps, plus d'énergie, plus d'argent. Auriez-vous pu les garder plus longtemps? Vous êtes là, c'est pas assez payant, je suis tanné, je passe à autre chose.
J'aurais pu. Mais c'est même pas pour le truc de l'argent. On avait une bonne offre avec une compagnie comme Evenco qui sont des professionnels là-dedans, qui ont les moyens de nous acheter en passant. Là, ils sont pas 25 joueurs au Québec à pouvoir faire ça. Ça reste au Québec en plus. Et je sais pas si vous nous suivez un peu, là, mais j'ai énormément de projets. Fait que ça, c'en était peut-être un qui me demandait trop de temps à mon équipe et moi. Mais c'est une très belle vente. Ça fait plus qu'un an qu'on parle avec eux autres. Puis Métro Métro a commencé en 2019, je crois. Mais tu sais, des fois, là, je suis un entrepreneur, j'ai plein d'entreprises. Des fois, il y en a que ça prend plus de temps. Vous en entendez des fois, là, des licornes, là, ça prend un an, c'est valorisé à des milliards. Moi, j'ai eu mon prix après. Pas des milliards, là, loin de là. Mais après 4 ans, j'ai eu mon prix, puis j'étais bien content.
Puis c'est quoi les autres projets que vous avez?
On a nos produits, là, nos prêts à boire Beach Day Everyday. On est en expansion partout aux États-Unis. On rentre dans plus de 20 000 points de vente cette année. On a encore le Beach Club. On a plein de trucs comme ça. On a un gros festival à Ottawa aussi. Dans notre famille, on a les épiceries. Fait que on est occupé en masse.
Mais avez-vous d'autres projets, là? Ceux-là, on les connaît, là, mais je sais pas, moi, il y a eu la restauration.
Oui.
Il y a autre chose ou comment?
Ben là, il y a eu de l'eau. Je vous ai entendu parler de l'eau ce matin. Fait que j'ai investi dans l'eau aussi. Ça, c'est un beau projet que je tiens à cœur. On travaille là-dessus. On va voir, mais...
Quand vous dites dans l'eau, vous voulez dire quoi?
Ben, j'ai acheté des sources d'eau, en fait, là. Des permis de captation d'eau. 28%, je pense, de toute l'eau de source disponible au Québec. Fait que ça aussi, c'est un gros projet pour nous, puis on a hâte de développer ça aussi.
Vous allez en faire quoi, là, autour des bouteilles?
On ne sait pas encore. Non, pas des bouteilles. Si je peux vous rassurer, on fera pas de bouteilles d'eau.
Non.
Parce que là, on le voit, là, ce matin, là, les grands de ce monde payent des...
Même pas des peanuts,
c'est des grains de sable. Fait que c'est pas ça le but, mais c'était une opportunité qu'on avait. C'était une compagnie qui... C'est triste parce que c'est triste, mais c'est pour une personnalité d'affaires comme moi, c'est une bonne opportunité parce que l'eau nous appartient plus vraiment. On pense que l'eau de source nous appartient aux Québécois, mais c'est privé depuis des années. On le voit avec Naya, Esca et tout ça. Fait que c'est une bonne opportunité, puis j'ai sauté dessus.
Dans les derniers mois, il y a des gens qui ont été, dérangés par vos succès d'affaires. Il y a eu des coups de feu dans votre condo, en direction de votre condo. Les restaurants qui ont été ciblés également. Saviez-vous pourquoi on vous en veut?
En fait, je vais dire la phrase plate, mais c'est la vraie. Là. L'enquête est encore en cours, fait que je peux pas en parler. Mais ce que je peux dire, par exemple, puis vous le savez, c'est pour ça je pense que on a une relation comme ça. Je réponds tout le temps aux questions quand on me les demande. Ce que je peux dire, par exemple, c'est qu'on a vu là au Québec dernièrement, j'ai pas été le seul qui a été visé par de tels événements, si on peut dire. Puis je fais peut-être partie de tout ça, mais l'enquête est en cours, puis ça avance bien. Puis pour l'instant, je peux rien dire.
Mais là, c'est pas des coïncidences, on s'entend. Là.
C'est pas des coïncidences, mais comme je vous dis, je vais être plate encore, mais l'enquête est en cours, fait que je peux rien dire. Mais je peux pas dire que c'est des coïncidences. Là. Au début, je pensais que c'était ça, puis finalement, ça a pas été ça.
Avez-vous eu peur?
Ben oui, j'ai eu peur. Qui aurait pas eu peur? Là? Je veux dire, c'est pas, je vais pas commencer à mentir ici. Là. Ça a vraiment pas été un beau moment pour moi, mes proches, ma famille, puis tout ça. Puis là, regardez, avec une transaction comme ça, on passe à d'autres choses aussi. On avance dans la vie. À un moment donné, il faut arrêter de regarder en arrière. Puis c'est ça, je me concentre sur le positif.
Parce que l'objectif de gens qui intimident, c'est de vous sortir du marché, c'est de faire en sorte que votre business démarre pas, puis que vous ayez... Bref, c'est prendre des moyens illégaux
exact.
Pour vous pousser à l'extérieur. J'en connais qui se sont retirés à cause de ça.
Ben ça a pas été mon cas, surtout pas dans l'événementiel. Là. Je sais pas si c'est ça votre question, là, mais on parlait à Evenco vraiment avant tous ces événements là. Est-ce que ça a un lien avec ça? Sincèrement, je ne sais même pas. Puis comme je vous dis, tu sais, vu que j'ai pas été le seul, je vous le dis, l'enquête est en cours. C'est-tu relié avec d'autres choses qui sont arrivées? Je ne sais même pas. Les policiers, c'est au compte-gouttes, puis c'est comme ça, c'est parfait comme ça.
Voulez-vous le savoir?
En fait, je veux même pas le savoir. Parce que moi, j'ai parlé à plein de monde cet été à qui c'est arrivé, puis ils sont comme, je ne sais pas. Puis beaucoup veulent pas le savoir parce que c'est pas des affaires le fun. Je suis en entreprise avec énormément de personnes, fait que je veux pas nuire non plus à personne.
OK. Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Ça me fait plaisir, M.
Olivier Pribault, qui est entrepreneur, un paquet de dossiers, vous le savez, et qui vient de vendre à Evenco les festivals Métro Métro et Fuego Fuego.
C'est 23.